Pavel Filatieff, nous enregistrons cet entretien à l'aéroport parisien Charles de Gaulle, tout près de la zone d'attente pour demandeurs d'asile. Vous êtes arrivé dimanche et où vous avez passé 2 jours en attendant que les autorités statuent sur votre cas. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?
Je suis dans un état un peu incertain. Je ne sais pas trop ce que je ressens et ce que je dois faire. Sachant qu'il y a 2 semaines encore, je m'étais fait à l'idée que j'allais pourrir dans une prison russe ou que j'allais être tué pour ce que j'ai raconté sur ce qui se passe en Ukraine et au sein de l'armée russe. Je m'étais dit que dans le meilleur des cas, je ne sortirais de prison qu'à un âge canonique.
Après la publication de votre récit sur Internet et après avoir accordé quelques interviews de Russie, vous êtes finalement décidé à quitter votre pays. Vous avez été exfiltré avec l'aide de l'ONG en exil en France, Goulagounet. C'était un très long périple, 5 frontières franchies avec beaucoup d'obstacles et en particulier lors de votre dernière escale avant Paris.
Juste avant, j'étais à Tunis. Et là-bas, j'ai été arrêté par les forces spéciales. Des hommes sont venus en pleine nuit, m'ont mis des menottes. Ils n'avaient aucun mandat. Ils m'ont détenu pendant 24 heures et m'ont accusé de terrorisme, d'extrémisme, de lien avec les mercenaires de Wagner. Puis, des hommes des forces spéciales sont arrivés et m'ont annoncé qu'il fallait absolument que je quitte le pays. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision définitive de gagner Paris pour y demander l'asile politique.
À votre arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, vous avez tourné une vidéo dans laquelle vous déchirez votre passeport russe, votre carte militaire et d'autres documents officiels. Quel était le but de ce geste ?
C'est un geste que j'ai fait sous l'emprise de l'émotion. Il faut savoir qu'au début, je n'avais pas planifié de venir ici. J'ai été submergé par les émotions. J'ai 34 ans. Toute ma vie, j'ai voulu être utile à mon pays. Mais aujourd'hui, je comprends que j'ai vécu ces 34 années, mais qu'au final, personne n'a besoin de moi. Dans mon pays, il n'y a pas de liberté de parole. Dans mon pays, les droits des militaires et de tous les citoyens, en général, sont inexistants. Et lorsque je me suis retrouvé à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai ressenti de la rancœur, parce que tout au long de ma vie, j'ai voulu être utile à mon pays, j'étais prêt à mourir pour mon pays. Mais j'ai fini par comprendre que mon pays n'en avait rien à faire de moi. Et c'est aussi le cas de tous ceux qui sont morts. Pour moi, c'est triste et frustrant de comprendre que dans mon pays, le prix de la vie humaine est proche de zéro. C'est pourquoi j'ai déchiré mes papiers, mon certificat de vétéran grâce auquel je touchais une pension en Russie, mon livret militaire, mon passeport. Je les ai déchirés et fait disparaître dans les toilettes. Par ce geste, je voulais aussi montrer à mes concitoyens que le gouvernement russe et le peuple russe, ça n'était pas la même chose.
Vous avez combattu en Ukraine, dans le sud, à Kherson et dans la région de Mykolaïv, au sein du 56e régiment des troupes aéroportées basées en Crimée. Et c'est après avoir été blessé à l'œil que vous avez fait défection. Vous avez publié votre récit. Vous y dénoncez l'impréparation des troupes, des tactiques d'un autre âge et un manque criant de moyens.
Le problème vient du fait que la corruption dans l'armée est omniprésente, tout comme dans les autres structures. C'est pourquoi, que ce soit les munitions, le matériel, l'équipement, il y a toujours des défauts. C'est-à-dire que sur le papier, tout va bien. Les rapports indiquent que tout est en ordre. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et du coup, les militaires ne sont pas prêts à effectuer les tâches qui leur sont fixées par le gouvernement. Je dirais qu'au minimum, un véhicule militaire sur 100 est totalement défectueux. Soit c'est la transmission qui ne fonctionne pas, soit il n'y a plus de vitres ou plus de freins. Mais dans les rapports, ce matériel est en bon état. Il arrive même qu'un tout autre matériel soit indiqué sur le papier, mais la réalité est bien différente.
À quel problème avez-vous été confronté au sein de votre bataillon ?
Notre bataillon a été envoyé à la guerre dans des petits OUAZ. Ce sont des véhicules militaires qui ont été conçus il y a un demi-siècle. Et c'est dans ces engins que mon unité d'assaut a été envoyée au combat. Dans certains des véhicules, les portes avaient de grosses fentes. Dans d'autres, et ils étaient nombreux, il n'y avait plus de chauffage. D'autres encore étaient sans frein, sans phare. La moitié de ces véhicules étaient quasiment hors d'usage. Mais que voulez-vous tirer de véhicules qui ont été fabriqués il y a 50 ans. Il est clair que cela ne correspond pas du tout aux standards actuels.
Cet état de délabrement que vous décrivez a-t-il eu, selon vous, un impact sur le cours de la guerre ?
C'est une vérité établie pour les militaires. Si un soldat a faim, a froid, il aura d'autant plus de mal à atteindre ses objectifs. Le fait que nous ayons des munitions, des gilets pare-balles ou encore des trousses de secours de plus mauvaise qualité que les Ukrainiens, cela a bien sûr un impact sur les objectifs qui étaient fixés à l'armée russe.
Que savez-vous de l'état d'esprit au sein de l'armée ? Y a-t-il beaucoup de personnes qui pensent comme vous, qui partagent votre point de vue ?
Il y a beaucoup de militaires qui sont comme moi. Quand de nombreux soldats ont vu au début de la guerre qu'on nous mentait, que cela n'était pas une guerre juste, ils ont refusé d'y prendre part. Mais dans le même temps, de nombreux militaires sont encore aujourd'hui prêts à mourir pour leur pays, parce qu'ils ne savent pas bien quelles sont les causes de cette guerre. Ils voient qu'il y a beaucoup de mensonges, qu'il y a de nombreuses pertes au sein de la population civile, mais ils ne comprennent pas que l'OTAN ou d'autres ne nous menacent d'aucune manière. Beaucoup continuent de croire à ce narratif et restent sur le front. C'est là tout le mensonge et l'horreur de cette guerre.
Alors l'horreur, ce sont aussi ces massacres qui ont été documentés, comme celui de Boutcha dans la banlieue de Kiev. Vous, vous étiez sur le front sud. Avez-vous été aussi témoin d'exactions ?
Dans mon régiment, il y a des personnes très diverses. Il y a des mauvais et des gentils, des gars intelligents et des idiots. Mais je sais qu'aucun d'entre eux n'a exécuté des prisonniers. On se connaît tous bien, on échange, et je sais que personne n'a commis de tels actes. Oui, j'ai raconté que dans mon régiment, il y avait des personnes qui ont volé des affaires, des ordinateurs portables, des téléphones, mais rien d'autre. Pour ce qui est de ce qui s'est passé sur le front Nord, j'ai entendu que la communauté internationale avait obtenu de nombreuses preuves du fait que nos militaires, mes collègues, avaient commis un nombre impressionnant de crimes. Je n'ai pas envie d'y croire, mais je comprends que s'il existe autant de preuves, c'est que de tels actes se sont produits. Et je considère que le gouvernement russe a déshonoré son propre peuple et l'armée russe en refusant de tirer ses affaires au clair et en ignorant toutes ces accusations.
Pensez-vous que le livre que vous avez publié sur Internet en russe pourrait pousser d'autres militaires à suivre votre exemple et à déposer les armes ?
Même si 100 personnes décidaient de ne pas partir à la guerre après avoir lu mon récit, je considérerais déjà ça comme une victoire personnelle. Je penserais alors que j'ai tenu ma promesse devant Dieu, que j'aurais fait ce qui était en mon pouvoir. À l'heure actuelle, je vais faire tout mon possible pour tenter d'arrêter cette guerre, pour faire en sorte que mes compatriotes ne prennent plus part à cette guerre, et c'est pour cela que je vais continuer, dans la mesure de mes moyens, à faire connaître la vérité.
Pavel Filatiev, merci.